météo marine, Ariel Cassim.
Bonjour à tous, vous écoutez RFI Marine, RFI, bien sûr une émission que vous pouvez suivre sur internet, en podcast et aussi grâce aux radios des îles Caraïbes en FM et bien sûr en ondes courtes pour vous qui êtes en mer. Alors la météo marine pour vous dans quelques instants, Laurent Philippot est à la technique, Cécile Bonici à la réalisation. Aujourd'hui nous parlerons de la journée mondiale des océans, comme vous le savez, demain 8 juin, une grande journée. Il faut eh bien savoir que les océans sont menacés, les océans souffrent et que nous en sommes tous responsables. Donc il faut absolument agir aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Donc il y a cette journée des océans qui a été créée en 1992, nous en avons beaucoup parlé. Demain nous serons en direct de Cherbourg pour voir ce que Cherbourg fera et fait autour de cet événement. Alors aujourd'hui nous parlerons cette fois avec Marie-Noëlle Lindemann qui est députée européenne, rapporteur de la directive eaux marines. Nous parlerons des zones marines protégées, de son action, elle qui se trouve et bien au Parlement européen. Pour l'instant, cette météo marine pour vous, donc pour ce jeudi 7 juin. Pour les zones Açores et Joséphine, il y a un coup de vent en cours ou imminent. Je répète, Açores et Joséphine. Situation générale, à 0h temps universel évolution, marée barométrique 2012-1015 hectopascal sur la France et l'Espagne, sans évolution. Une dépression de 1000 hectopascales par 40 nord, 25 ouest se décale lentement vers le sud-est, prévue 994 hectopascales sur les Açores le 7 à 12h TU, puis 1000 hectopascales par 39 nord, 21 ouest le 8 à 12h TU. Talvec traversant l'ouest de Faraday et le nord-ouest de Altaïr demain. Un anticyclone 2029 hectopascales par 42 nord et 41 ouest, quasi stationnaire, s'affaisse légèrement. Une onde tropicale se situe le long du 35 ouest, au sud du 10 nord. Elle se décale vers l'ouest à 10-15 nœuds. Une autre, le long du 59 ouest, au sud du 13 nord, se décale vers l'ouest à 10-15 nœuds. Les prévisions par zone jusqu'au vendredi 8 juin à 12h TU. Flémiche, le vent est de sud 4 ou 5, vire lentement ouest à nord-ouest 4 par l'ouest. Mer agitée, pluie ou averse. Faraday au nord-ouest, le vent est de sud-est 2 à 4. Ailleurs, il est de nord-est 3 à 5, temporairement 6 au sud-est. Mer agitée, passagèrement forte au sud-est. Roméo, le vent est d'est à nord-est 4 ou 5, virant bientôt sud-est 3 ou 4 par le sud. Mer agitée à forte s'atténuant. Mine, le vent est d'ouest 4, mais de nord au sud-est, virant nord-ouest plus tard. Mer agitée, pluie ou averse. Altaïr, le vent est de nord à nord-est 4 à 6, mer agitée à forte, pluie ou averse orageuse au sud-est. Charcot, le vent est de secteur sud-est 2 à 4, temporairement d'est à nord-est 4 ou 5 au nord aujourd'hui. Fraîchissant plus tard, sud-est 3 à 5, localement 6 au sud-ouest. La mer est localement forte au sud-ouest, pluie ou averse orageuse. Ridge, variable anticyclonique 2 à 4, parfois 5, de nord dominant à l'est et de sud à sud-est à l'ouest. Mer agitée localement forte dans l'extrême est. Quelques pluies ou averses au nord-est plus tard. Açores, dépressionnaire 5 à 7, passagèrement 8. S'orientant nord à nord-ouest 4 à 6 par l'ouest. Forte rafale. Mer forte à très forte devenant agitée à forte plus tard. Pluie ou averses orageuses. Joséphine, le vent est de sud 2 à 4. Fraîchit par l'ouest 5 à 7, temporairement 8 à l'ouest aujourd'hui. Rafale. La mer devient localement très forte à l'ouest, pluie ou averse orageuse. Porto, vent de sud 2 ou 3, mer agitée, banc de brouillard. São Vicente, le vent est de sud-ouest 2 ou 3, revenant plus tard, sud-est, mer agitée, banc de brouillard. Cadiz, variable 2 à 4, mer peu agitée, agitée, banc de brouillard. Gibraltar Strait, le vent est de secteur est 4 à 6, mollit temporairement 2 à 4 la nuit prochaine. La mer est peu agitée, agitée, banc de brouillard. Est Bermude, vent de sud 3 à 5, virant ouest à nord-ouest plus tard au nord-ouest. ouest, mais localement d'est dominant 2 à 4 au sud-est. Mer agitée, pluie, averse et grains orageux. Colorado, le vent est d'est à nord-est 4, parfois 5. Localement de sud-est au nord-ouest. Mer agitée, grains orageux au sud avec de fortes rafales. Irving, vent de nord à nord-ouest 3 à 5. Temporairement 5 à 7 avec des rafales au nord-est aujourd'hui. Mer devenant forte, localement très forte au nord-est. Houle de nord, pluie ou averse orageuse. Madeira, vent de secteur sud-ouest 2 à 4. Localement 5 ou 6 avec rafales au nord-ouest. La mer devient localement très forte au nord-ouest, pluie ou averse orageuse. Casablanca et Agadir, vent de secteur sud-ouest 2 ou 3 devenant bientôt variable et banc de brouillard. Tarfaya, variable 2 ou 3, localement 4, de nord-ouest dominant au début, mer agitée. Météore, le vent revient au secteur nord-ouest 3 ou 4, localement de nord-est au sud-ouest et plus tard de sud-ouest passagèrement 5 dans l'extrême nord-est. Mer agitée devenant localement forte au nord plus tard, quelques pluies ou averses éparses. Si vous êtes dans la zone Canarias, le vent est variable 2 à 4, de nord dominant au sud et d'ouest au nord, fraîchissant sud-ouest 4 au nord-ouest plus tard. Mer agitée devenant localement forte au nord-ouest plus tard, quelques pluies ou averses éparses. Cap Blanc, Cap Timiris, vent de secteur nord 3 ou 4, passagèrement 5 près des côtes, mer agitée. Cap Verde, vent de secteur nord-est 3, localement 4, mer agitée. Alizé Ouest et Estantie, le vent est d'est 2 à 4, mer agitée, quelques grains orageux avec de fortes rafales. Nord et Sud Antilles, le vent est d'est à sud-est 3 ou 4. La mer est peu agitée, localement agitée en Atlantique. Grains orageux devenant fréquents au sud du 16 nord, au passage de l'onde tropicale. Je vous rappelle que pour les zones Açores et Joséphine, coup de vent en cours et imminent. Soyez bien sûr prudents. On se retrouve tout de suite.
RFI, ensemble, parcourons le monde. Le quotidien de la mer, Ariel Kassim.
De Cap Istanbul, sachez que pour la deuxième fois dans cette deuxième étape, c'est Kone Elevator qui a remporté cette deuxième étape. Ensuite, eh bien, c'est Laurent Pellecuère sur Dr Valnet qui est arrivé en seconde position avec son équipier, bien entendu. Donc, ils vont ensuite être au moteur, remonter le détroit et puis ensuite une troisième étape pour arriver enfin à Istanbul. On leur souhaite en tout cas bon vent. Je pense que ce sera maintenant une partie peut-être agréable. Voilà, concernant le 8 juin, n'oubliez pas, demain, journée mondiale de l'océan avec de belles questions à découvrir, à mieux comprendre le réchauffement de l'océan. Comment l'océan contribue-t-il à l'évolution du climat? Donc, des dossiers que vous pouvez découvrir dans Ifremer, sur le site de Ifremer. Voilà, nous on se retrouve dans quelques secondes avec notre invité, c'est sur RFI. Marie-Noëlle Lindemann, bonjour.
Bonjour.
Marie-Noëlle Lindemann, je rappelle que vous êtes députée européenne, rapporteure de la directive eau marine.
Oui.
Au Parlement européen. Alors, nous sommes à la veille de cette journée mondiale des océans. C'est vrai que c'est un thème très important et qui touche de plus en plus de pays. Il y a de belles opérations un petit peu partout, on pourrait dire en Asie, dans les départements d'outre-mer, en Afrique, etc. Et évidemment, en Europe et en France. Alors, vous vous occupez plus particulièrement de ces zones marines protégées. Il faut savoir que nous avons eu en France une politique maritime avec tous ces développements éventuels, je dis bien, et qu'aujourd'hui vous êtes très proche du problème des eaux marines. Tout d'abord, une première question, qu'est-ce que vous pensez de cette journée des océans qui va se dérouler demain ?
Écoutez, elle prend une ampleur de plus en plus significative parce que l'urgence quant à l'état des océans s'est considérablement accélérée. Vous savez qu'un récent rapport montrait que la disparition des poissons était fulgurante, et alors il était même très alarmiste en disant que dans 50 ans nos mers seraient peut-être vidées. Peut-être pas dans 50 ans, mais en tout cas on a maintenant une disparition très très lourde des ressources halieutiques, donc d'abord qui vont menacer la pêche, mais surtout, bien sûr, l'écosystème général de la planète. La deuxième constatation qu'on fait, c'est que ces océans sont en train, et les mers sont en train de s'acidifier, de se réchauffer, effet, c'est pas seulement l'effet du changement climatique, c'est l'effet effectivement des pollutions, dont 80% viennent de la Terre, et 80% de pollution venant de la Terre acidifie nos océans, rend la vie à l'intérieur beaucoup plus aléatoire et empêche les océans d'avoir pleinement leur fonction de régulation du climat. Il y a donc un phénomène d'accélération du changement climatique. C'est une sorte de spirale négative. Plus le changement augmente la température et plus la pollution en même temps se développe, plus les problèmes s'amplifient. Donc très bien de sensibiliser partout dans le monde toutes celles et ceux qui vivent autour, mais aussi qui vivent sur les océans, et puis la conscience planétaire de tous les citoyens. Je crois qu'il faut la faire vivre. Et je suis étonnée d'ailleurs qu'on en parle assez peu dans notre pays. Pourtant, la France est un pays qui a un grand littoral. Et je regrette qu'on n'en fasse pas une manifestation plus significative. Mais bon, c'est la petite graine va pousser.
Il y a quand même quelques grandes opérations qui vont se dérouler ce week-end, quand même, pour en parler. Alors, on peut dire que les consciences se sont réveillées. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites aujourd'hui. Même les Américains commencent à s'y intéresser.
Paradoxalement, ils sont parfois été plus vite que nous. Les consciences s'éveillent, les initiatives ponctuelles sont nombreuses, mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est une convergence de méthodes, de pratiques, une systématisation de la prise en compte de l'enjeu de la qualité des eaux marines et d'une vraie politique structurée pour restaurer le bon état écologique des mers et des océans. C'est pourquoi l'Europe avait maintenant depuis 3 ans, 4 ans, avait préparé le travail en essayant de définir une stratégie marine qui est le pilier environnemental d'une stratégie maritime plus large qui va au transport maritime, la pêche, etc. Et avec une directive que nous sommes en train de discuter au Parlement européen qui va imposer à tous les États membres de l'Union de se regrouper par grandes régions marines, par exemple la Méditerranée, la Baltique, la Mer Noire, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, etc. De telle manière qu'on soit dans chacune de ces régions, premièrement établir un bilan écologique de l'état écologique des eaux, des pressions écologiques subies par le milieu et de la définition de ce que pourrait être le bon état écologique de l'eau dans ces secteurs. Avec l'obligation ensuite de mettre des mesures en œuvre, des politiques à mener pour restaurer le bon état écologique des mers et des océans, alors soit pour 2021, soit pour 2026, on est en pleine discussion sur les délais.
Alors il existe déjà quand même quelques sanctuaires.
Alors, dans la politique globale, j'insiste bien sur l'idée de la politique globale, c'est que on ne peut pas se contenter d'avoir des sanctuaires. Vous voyez bien que si on a des aires marines protégées, sujet sur lequel nous n'avons pas encore l'accord des différents pays, mais sur lequel le Parlement européen s'engage de manière tout à fait déterminée. C'est-à-dire effectivement des endroits où la pêche et les activités sont supprimées, de telle manière qu'elles soient aussi des lieux de reproduction, non seulement quantité, mais en taille des poissons, des écosystèmes ou d'hyperprotection de secteurs très très fragiles. Alors ces sanctuaires sont qu'un des maillons parce qu'évidemment, si tout le reste continue à se détériorer, leur efficacité sera limitée. Mais notre grande bataille, c'est de les faire reconnaître. Or, je rappelle que les différents pays d'Europe ont signé des accords internationaux, notamment la convention OSPAR sur les océans et l'Atlantique, dans lequel ils s'engagent à faire ces aires marines et elles sont toujours dans les cartons de la Commission et jamais retenues. Donc c'est notre bataille d'arriver à les faire reconnaître.
Alors quels sont vos espoirs pour ces décisions futures
Ben écoutez, mes espoirs sont bons pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de directive européenne sans l'accord du Parlement européen. Donc pour qu'une directive soit votée, il faut qu'il y ait un accord entre le Conseil des ministres et le Parlement européen. Donc nous sommes dans une stratégie où on affirme ce point comme un point déterminant pour essayer d'arriver à un compromis avec le Conseil et je ne doute pas qu'on finira bien par trouver un compromis. Le deuxième gros point important pour nous, c'est d'être sûr que la directive est contraignante et pas la directive vœux pieux, il faudrait prendre toutes les mesures qui permettraient de, vous voyez, et qui, si je puis dire, noie le poisson. Donc là, la deuxième bataille, elle est sur le côté contraignant. Et la troisième bataille, c'est qu'on soit précis sur ce qu'on appelle le bon état écologique, parce que là aussi, on peut être avec une vision minimale du bon état écologique et une vision plus rigoureuse sur laquelle nous nous mobilisons.
Mais qui est-ce qui pourra déterminer justement ce terme bon état écologique ?
Alors, dans chaque région marine, on définit dans une annexe de la directive tous les éléments à prendre en compte pour définir le bon état écologique. C'est-à-dire toutes les pressions, le bruit dans la mer, la question du phytoplancton, la question du passage des bateaux et des conditions à prendre, est-ce qu'il y en a beaucoup, etc. La question chimique, la nature de la biodiversité à préserver. Donc tout l'enjeu de notre directive est aussi de définir dans l'annexe suffisamment de paramètres à prendre en compte pour que le bon état écologique soit complet, soit réel. Alors après, chaque région, évidemment, ne subit pas les mêmes pressions ni les mêmes problèmes. Donc une fois qu'on a une annexe, chaque région marine, à partir de ce cadre, définira le bon état ou les bons états écologiques de ses eaux. La commission vérifiera la cohérence entre leurs propositions et l'ensemble des régions et des critères que la directive aura fixés. Et c'est à ce moment-là qu'on aura retenu le bon état écologique. Oui. On l'a fait pour la directive cadre sur l'eau. Vous savez qu'on a une directive qui, sur les eaux terrestres dans le territoire de l'Union européenne, on doit avoir restauré en 2015 le bon état écologique des rivières, des nappes phréatiques et des lacs.
Il y a du travail, hein.
Voilà. Eh ben, ça avance quand même. Ça prend des fois du retard dans un pays comme la France où on est en retard. Mais dans beaucoup de pays, ça a bien avancé. L'idée étant, et là, on a défini dans chaque bassin hydrographique, les conditions du bon état écologique. Ça a été fait il y a à peu près 3 ans.
Alors, restera le plus difficile, je pense, plus tard, lorsque ces zones marines protégées seront déterminées, à les contrôler.
Voilà. Et à trouver aussi des financements pour les faire vivre, pour les organiser, pour compenser aussi les pêcheurs. Parce que c'est bien beau, mais les pêcheurs, on peut comprendre qu'on leur demande de ne plus faire de la surpêche. Et pour le coup, il faut quand même qu'ils vivent. Donc, il y a aussi un gros problème de financement, de dépollution en général, de gestion des aires marines, et puis du contrôle. Alors, sur le contrôle, là, je pense qu'il y a vraiment... pour ma part, je plaide depuis très longtemps pour qu'on substitue au contrôle par les États membres des systèmes de contrôleurs européens. Mais là, pour être franche, cette bataille-là n'est pas prête d'être gagnée. Donc, mais il faut quand même l'amener pour l'avenir.
Bien sûr, absolument. Pour nos enfants et petits-enfants, comme on le dit. En tout cas, Marie-Noëlle Lindemann, merci beaucoup. Et bien, continuez ce combat qui est très important pour que nous
puissions... Et je voudrais vous remercier de votre émission parce que nous avons besoin du soutien des citoyens. Notre gros problème, c'est l'indifférence générale. Vous savez, le changement climatique a pris beaucoup d'espace dans le débat écologique. N'oublions pas l'eau. Voilà, n'oublions pas les océans.
Eh bien, merci. Nous sommes des citoyens de la mer. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Eh bien, ce sera en direct de Cherbourg dans le cadre de cette journée mondiale des océans. Au revoir et à bientôt.
Les océans sont des poubelles et les fonds de mer sont souillés. Tchernobyl dans Ribambelle voit naître des fœtus mort-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise, nul ne s'en soucie. Et pourtant, les espèces devenues rares sont en voie de disparition. Et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie. Un point, c'est tout. Il met à son gré, à son goût. Sans dessus dessous, la terre meurt. Où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre. Et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune? Et qu'advient-il du firmament privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent. terre meurt.